Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de plein de choses et notamment on va vous reparler de l'Allumette, le centre social autogéré situé dans le quartier de Pontlieu. Quartier de Pontlieu, 7 rue de la Marne. Il est fidèle au poste, ce qui n'est pas si facile. En ce mois de septembre, vous pouvez retrouver l'équipe participant et pourquoi pas proposer des choses le mercredi, le samedi, entre 14h et 18h. C'est ouvert pour vous accueillir, mais il y a aussi plein d'activités dans la semaine. Et pour que cela continue, il faut des sous. Alors on vous redonne l'adresse sur Hello Asso. Il y a une cagnotte pour récupérer des sous, parce qu'on vous l'a dit la semaine dernière, si c'était une asso de fachos, ça serait facile. Il suffirait de faire des dossiers chez Sterrin et Bolloré, mais là, non, définitivement. Je me le suis fait confirmer cette semaine, ce n'est pas le cas. Donc dans la barre de recherche sur helloasso.com, vous tapez Solidarité et Sarthe, et la première page qui sort, c'est l'allumette qui s'appelle Solidarité Interassociative Sarthe. De fait, l'allumette a aussi besoin de contributeurs mensuels, des gens qui donnent tous les mois un petit peu d'argent, ou beaucoup, si vous avez une fortune personnelle, pour assurer les dépenses courantes. Comment faire pour les joindre? Vous allez sur place, 7 rue de la Marne, dans le quartier de Pontlieu, les mercredis et samedis. Et, ou alors, vous leur envoyez un petit mail sur l'allumettelefeu. Tout ça, c'est attaché, pas d'apostrophe, bien sûr. l'allumettelefeu@libremail.net. Libremail, mail.net. On aurait pu vous parler également du départ de François Bayrou.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté.
Il fallait bien que ça cesse, tout ça, quand même. Une centaine de personnes au Mans sont venues lui dire au revoir, place de la préfecture. Ça a aussi servi à se retrouver pour préparer le 10, oui. Alors, pas de pleurs, pas de fleurs, finalement, pour le départ de François Bayrou. Plutôt un atelier pancarte pour le 10 septembre et quelques coups à boire. Le lendemain, Stéphane Lecornu était nommé Premier ministre. Il était déjà dans les tuyaux au moment de la nomination de Bayrou, mais Bayrou avait fait le forcing. Les prétentieux qui se font passer pour nos représentants se sont passés le pouvoir, oui. Des cérémonies de passation de pouvoir, qui n'ont d'autre intérêt que d'utiliser du temps d'antenne, télé, radio et autres, au lieu de nous parler de la vraie vie des vrais gens. Le même jour, mardi 9 septembre, alors que Stéphane Lecornu est... je l'appelle Stéphane, mais je crois que c'est Sébastien. Monsieur Lecornu Monsieur Bayrou se passaient du pouvoir. Un jeune homme de 22 ans est mort à Saint-Gildas-des-Bois, en Loire-Atlantique. Qu'est-ce qu'il faisait? Et pourquoi il est mort? Il travaillait sur un chantier d'élagage quand il a été écrasé par un arbre. Oui, il y a 2 morts par jour au travail en France. Des travailleurs et travailleuses ont cultivé leur TMS ce mardi 9 septembre. Plus de 40 000 personnes sont reconnues comme ayant des troubles musculo-squelettiques par la Sécurité sociale chaque année. Ça fait à peu près 110 par jour. Des millions de travailleurs ont été exposés à des produits toxiques sur leur lieu d'exploitation. Oui, parce que en fait, il y a des enquêtes qui sont faites sur le travail, et notamment une qui s'appelle Sumer, S-U-M-E-R, et qui nous indique que des millions de personnes, chaque jour, sont soumises à un certain nombre de produits, des produits neurotoxiques, des produits cancérigènes, des produits qui vous empêchent d'avoir des petits, tout ça sur leur lieu de travail, et que il y a quand même une lutte contre ce genre d'exposition, mais souvent il y a surtout des primes qui font que vous vivez moins longtemps mais vous êtes payé plus cher. Des accidents de voiture ont eu lieu également à cause de la fatigue d'avoir des horaires à la con pour que la boîte tourne 24 heures sur 24. Tout ça n'a pas été dit à la place. Au lieu d'apprendre tout ça, on a pu voir sur les chaînes d'information en continu un démissionnaire sur un perron remplacé par le nouveau qui prend sa place devant des micros en nombre. Tristesse. On aurait pu vous parler du 10 septembre. Cette semaine encore, les médias ont usé de grosses ficelles pour annoncer un mouvement mort-né. Le 6 septembre, Le Parisien titrait « Bloquons tout ». Seuls 46% des Français soutiennent le mouvement du 10 septembre selon un sondage. On apprend par la suite de l'article que 28% des sondés s'y opposent et 26% sont indifférents, toujours dans le même sondage. Donc presque 2 fois plus de sondés soutiennent le sondage par rapport à ceux qui s'y opposent, et pourtant le journal utilise le mot « seul ». Terme péjoratif tant il montre une une limite. On se souviendra que le Parisien appartient à LVMH, une entreprise détenue par Bernard Arnault, qui menace régulièrement de fuir à l'étranger pour rester le futur plus riche du cimetière. Ah oui, mais le 10 septembre, ça avait commencé le 9. Oui, ça avait commencé à Bordeaux, où le périph' a été bloqué par des pneus. Dans un communiqué, les bloqueurs concluent par cette phrase. Par ces phrases, d'ailleurs, il y en a plusieurs. Le 10, le 11, le 12, de quoi tu me parles? Tous les jours qui s'en suivent, on ne sait pas quand commencer, alors comment savoir quand s'arrêter? Le temps ne s'arrête plus, alors nous non plus. Mais rassurons-nous, hein, le périph' a été bloqué, mais ici Gironde nous rassure, je cite. Le trafic de la rocade a été ralenti, mais pas coupé. Alors bon, il y a des photos qui montrent l'inverse. Mais bon, ici, Gironde travaille pour qui, hein? C'est en gras, au cas où vous ne l'auriez pas vu. Dans l'article, le trafic de la rocade a été ralenti, mais pas coupé. Ça sent la communication de guerre, hein, vous savez, avec ces toutes petites défaites transformées en formidables victoires. Lundi soir, le 8 septembre, le ravi de Vendée qui triche à Interville a eu plateau ouvert sur France 2 pour expliquer que le 10 septembre, c'est l'ultra-gauche qui est à la manœuvre. C'est sûr que place publique lui plaît beaucoup plus. C'est pour ça d'ailleurs que place publique est invité un petit peu partout, dans les médias. Ah oui, ça c'est la gauche qu'on aime chez les libéraux. Bah parce que place publique est libérale, donc forcément, entre libéraux, on se comprend beaucoup mieux. Dans l'intervention du ravi de Vendée qui triche à Interville, il a parlé de violence, d'ultra-violence, d'hyper-violence. Le superlatif en bandoulière, il fait peur à tous ceux qui ont un intérêt bien compris à faire perdurer une société basée sur la hiérarchie sociale et cette fameuse réussite qui fait que quand on vous regarde, on se dit waouh, lui il a réussi, grosse voiture, grosse ceci, grosse cela, les pauvres. Cependant, je suis rassuré, aucune violence ne sera tolérée. Eh ben, ça veut dire que la police, ça veut dire que les gendarmes, en vadrouille, n'auront pas la possibilité de tabasser des gens au hasard comme lors des précédents mouvements sociaux. Dans mon oreillette maison, on me dit que peut-être la violence légitime de l'État fait que les violences dont il parle ne sont pas les violences faites par les forces de l'ordre. Il y aurait un problème de compréhension de ma part. Ça m'étonne. Bon, mais quand même. Des drones autorisés partout. Oui, oui, on a vu ça à propos du préfet de l'Hérault pour Montpellier. Il s'agit, hein, là, maintenant, de relire la zone du dehors de Damasio pour savoir comment s'en prémunir. Et arrive le jour J. Le jour J, la désinformation continue. Tiens, le Parisien, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. À 9h, on a le relais des infos du ministère de l'Intérieur. 80 mouvements, 16 blocages, 3000 manifestants. Je cite, nouveau point sur la situation, à 8h30, la gendarmerie identifiait 80 mouvements, 16 blocages ou filtrages routes et ronds-points, parmi lesquels l'A10 qui a été débloquée depuis. Enfin, elle comptabilisait déjà 3000 manifestants dans les rues. Souvenons-nous quand même que le Parisien appartient à LVMH, oui, la boîte du libéral vindicatif, encore un, qui nous menace de se tirer à l'étranger s'il paye un peu plus d'impôts. J'ai nommé Bernard Arnault. Eh ben, je sais qu'on l'a déjà dit, mais c'est toujours vrai. Et puis dans le coin, eh bien, à 7h, devant le lycée Bellevue, une vingtaine de lycéens motivés ont entassé des poubelles et s'arment de patience en attendant les collègues lycéens qui viendront s'abreuver de connaissances incessamment sous peu. Ben ouais, il est 7h. On en a interviewé un.
Qu'est-ce que vous espérez de cette journée?
Qu'est-ce qu'on espère de cette journée? De donner de la force à nos camarades plus âgés, retraités, travailleurs, de campagne comme de ville. L'objectif, c'est aussi de créer un mouvement de fond. On sait très bien que cette journée, pour l'instant, si elle n'est pas continuée, va faire comme la réforme des retraites, une action isolée qui va grand max faire réagir des gens, mais pas grand-chose. Ce qu'on veut, nous, c'est construire la démocratie. Aujourd'hui, cette journée, c'est un moment pour créer de la discussion, qu'on se rencontre en manifestation, qu'on trouve des travailleurs, travailleuses, pour être au contact des personnes qui travaillent. Nous, on veut que vraiment le peuple s'unisse, qu'on ne soit pas divisé, gens de quartier, gens de campagne, lycéens, étudiants, travailleurs, chômeurs. On est tous ensemble, on a la même lutte, on veut s'émanciper. Et l'objectif de cette journée, c'est qu'on se réunisse tous ensemble, en fait.
C'est-à-dire qu'à la fin de cette journée, il y aura de nouveau une AG et peut-être de nouveau des actions?
Alors, pour les actions, je ne peux pas affirmer, c'est démocratique, ce sera une décision collégiale, mais je peux vous dire qu'effectivement, nous, lycéens, dans notre optique démocratique, évidemment, on fera plusieurs AG dans la journée pour décider de ce qu'on fera dans la journée. Et après, les travailleurs, je sais qu'actuellement, les travailleurs à la GEMRI font une assemblée générale pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y a d'autres piquets de grève, des certains syndicats qui sont assez actifs. L'AG, les rassemblements, c'est primordial, et si on veut une lutte qui gagne, il faut une lutte qui continue.
Une lutte qui continue, voilà ce que ce lycéen appelait de ses voeux. On a continué à parler avec lui.
Vous parliez du fait qu'il y a une infirmière à 75%, donc en trois quarts temps, pour 1200 élèves. Est-ce que pour vous, il y aurait des priorités à mettre en œuvre dans la prochaine politique de M. Lecornu qui vient d'être nommé ?
Évidemment, mais la politique de santé, la santé, les hôpitaux, je pense à beaucoup de camarades. Moi, j'ai la chance d'habiter en ville où c'est... pas, c'est très très critique, mais c'est pas catastrophique. Je pense à tous les camarades de campagne qui n'ont pas un médecin, 10 communes à la ronde, où c'est une galère pour eux, mais dans notre lycée, c'est catastrophique. Et monsieur Lecornu, ce qu'il doit faire, c'est arrêter de donner autant d'argent à l'armée, au SNU. La jeunesse, elle n'a pas besoin d'aller à la guerre. La jeunesse, elle veut s'éduquer. La jeunesse, c'est la jeunesse du monde. La jeunesse, elle veut participer à toutes les luttes. La jeunesse, elle a des problèmes écologie. La jeunesse, elle a des problèmes de racisme, de sexisme. La jeunesse, elle s'organise autour de l'éducation. Nos aïeux se sont battus pour notre droit à l'éducation. Et aujourd'hui, paradoxalement, c'est ce qu'on protège. Et monsieur Lecornu, au lieu de mettre encore plus de l'argent dans l'armée, j'aimerais qu'il mette de l'argent dans les hôpitaux, dans les routes, dans les lycées, pour notre éducation.
Mais que rajouter ? Oui, de l'argent à des endroits qui serviraient la population plutôt que des endroits qui servent la grandeur de la France. C'est peut-être intéressant ça comme programme. Donc le lycée Bellevue est resté bloqué ce mercredi 10 septembre. Et d'ailleurs, le lycée d'Estournel de Constant a aussi été bloqué à la flèche. L'éducation nationale a donné des chiffres délirants correspondant à... Bah, oui, mais alors quand c'est à moitié bloqué, c'est pas bloqué. Alors on joue sur les mots comme on joue avec... la propagande, par exemple, ici, Mène Gironde, on se souviendra que le périph n'a pas été bloqué, même si les voitures ne pouvaient plus passer. C'est pas tout à fait pareil. Mais il se passait aussi d'autres choses, et notamment à Allonnes, enfin sur le rond-point d'Allonnes, vous savez, le fameux rond-point qui mène au pont d'Allonnes et qui est dans le centre ou presque de la zone industrielle sud. Il y a des gens.
Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites ?
On monte un petit barnum pour se mettre à l'abri.
Parce que qu'est-ce qui se passe là sur le rond-point d'Allonnes, la fameuse patte d'oie comme on l'appelait avant ?
Ouais, bah, c'est la première fois que je viens là donc.
Mais qu'est-ce qui se passe ?
Bah, un peu de tout.
Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites là ?
Non, parce qu'on a un petit coup de ras-le-bol avec nous supprime avec les deux jours et tout ça. Donc on a un petit ras-le-bol. Voilà.
Un petit ras-le-bol, voilà. Un petit ras-le-bol, il euphémise pas mal, le gars. Hein. Ben ouais, il veut pas dire qu'il en a marre, tellement marre qu'il s'est levé à pas d'heure pour venir effectuer des blocages, un blocage en l'occurrence, dans la zone industrielle sud, près de Allonnes. Alors, puisqu'il y a blocage, la police dévie la circulation à partir du feu avant le blocage, à côté de Classe, les tracteurs, les fameux tracteurs de chez Classe, et fait passer les véhicules derrière la CETRAM. Bon, par contre, pour tous ceux qui arrivent de la ville, ben là, le blocage est effectif. Une partie des bloqueurs étant bloquée par le blocage, en venant du Mans ou du boulevard Le Faucheux, le barrage est filtrant, les voitures peuvent circuler, les automobilistes libérés montrent aussi parfois leur agacement en accélérant fortement au moment de repartir. Ça énerve un peu tout le monde.
Mon rôle aussi, c'est d'assurer la circulation publique.
Vous lui montrez.
Je peux le faire, mais ce sera manu militari. J'ai pas envie d'en arriver là.
Non, mais
ça peut être manu militari, mais moi je peux pas garantir que l'automobiliste il va pas s'énerver. Comment voulez-vous que je fasse, monsieur ?
Bah, vous êtes, c'est votre.
Vous avez vu un peu comment on est respecté de nos jours. Donc l'automobiliste au volant, s'il a envie d'accélérer, je peux pas vous le dire. Maintenant, il faudrait que ça se libère un tout petit peu pour que l'esprit s'apaise derrière. C'est ça le truc.
Ça va
s'apaiser.
Je sais bien.
Écoutez, je rencontre au préfet, puis on va voir la situation.
Donc la police se déploie et dit bien, le problème du blocage, c'est que ça bloque. Oui, c'est vrai. Et il rétablit le passage, mais les bloqueurs passent et repassent. Les policiers ne sont pas en très grand nombre. Des policiers demandent de se pousser, d'autres bloqueurs reviennent, des manifestants sont là, à droite, à gauche. Et la police n'étant pas assez nombreuse, elle ne peut pas empêcher de se mettre devant les véhicules. L'ambiance reste quand même assez calme. Le nombre de manifestants grossit. On passe d'une 60aine à 80, puis à 100, forcément, puisque ceux qui étaient bloqués dans le blocage arrivent. On a des drapeaux CGT, on a des chasubles CGT, des suites CGT, comme quoi il y a de la CGT, des gilets jaunes décorés de slogans toujours et surtout contre Macron, et puis contre l'injustice sociale, contre l'injustice fiscale, contre l'injustice écologique. Tout ça étant également réclamé sur une pancarte en carton qui ne prend plus l'eau. Car la pluie a cessé après deux bonnes grosses heures à tomber sur la région. Il est à peu près 8 heures. Un point de blocage où les camionneurs, les livreurs et la plupart des bloqués sont solidaires avec l'action. Des bloqueurs vont au contact, discutent, se font rembarrer, mais pas si souvent. Et puis, c'est filtrant. Alors ça passe un peu. Les policiers ont fini par cesser de vouloir réguler le passage. Ouais, voilà, c'est une victoire symbolique, mais aussi effective de ceux qui manifestaient. Les manifestants devenant trop nombreux, le chiffre de 130 est atteint vers 8h30. Un camion passe.
Ah, mais le problème, c'est que c'est complètement bouché de l'autre côté.
Et par où on peut passer?
Ah, je sais pas, mon tour.
Oh, est-ce que je peux refaire le tour de mon coin et passer par la zone? Là, et je vais à 600 mètres.
Bah ouais, c'est pas de chance. Et là, après, c'est repasser à travers et repasser par là-bas, vous voulez dire?
Ouais. Et passer par la zone.
Ouais.
C'est le bordel. Vous avez raison.
Sinon, vous restez là un petit coup.
Alors le camionneur discutait avec un policier qui essayait de lui dire « Oui, mais par là, mais ben, mon pauvre, etc. » Oui, voilà, c'était le policier. Et quand le camionneur dit « C'est le bordel !»« Mais vous avez raison !» Le « Mais vous avez raison !» s'adresse aux manifestants qui sont à côté également de la porte du camion et qui essayent de voir avec lui s'il n'y aurait pas une solution. Il est à 600 mètres, le gars. Résume bien, ça résume bien ce « Mais vous avez raison !» résume bien la pertinence de poser des gestes, de dire stop, d'exprimer un petit peu son ras-le-bol, le petit ras-le-bol de tout à l'heure. Mais si c'est le bordel, même si c'est le bordel sur la voie d'accès au pont d'Alonne, par exemple, là, il y a un groupe de jeunes masqués comme au temps de la Covid en noir, tels les héros fantasmés des histoires du Ravi de Vendée. On est très très loin de LFI avec cette jeunesse, mais alors très très loin. Ils tiennent la barrière et parfois l'ouvrent. À quelle fréquence? C'était ma question.
Pour te répondre, le temps est en fait quelque chose d'assez relatif, mais je crois que la physique s'est occupée de le démontrer. Et ici, c'est la même chose. En fait, ça, le temps où on débloque, parce qu'on a choisi collectivement de faire donc un barrage filtrant, laisser passer les voitures, mais j'imagine que tu vas l'expliquer. Et en fait, ça dépend des rencontres qui sont, parce que voilà, les gens ouvrent leurs fenêtres, on discute, on voit un peu comment ça se passe, est-ce que les gens sont chill, est-ce que les gens ont l'air stressés, énervés, quelles sont leurs raisons d'être dans ce bouchon énorme bloqué dans leur automobile. Et en fonction de ça, en fonction aussi de nos discussions au niveau de la barrière et des spectacles comme ici présent, donc c'est pour la radio, donc une personne est montée sur la barrière en équilibre, c'est une barrière très fine, à peu près 3 cm de diamètre. Voilà, donc en fonction de nos discussions, de comment est-ce qu'on se dit « Ah tiens, il faut pas qu'on oublie d'ouvrir », on ouvre. J'espère que c'était pas trop long pour répondre à cette courte question.
Tiens, on est loin de l'anxiété volontairement entretenue par nos soi-disant représentants. Pourtant, il y a des tags. Oh là là, oui, des panneaux publicitaires entourés de plastique sont recouverts de slogans et détournés de leur fonction première. Nous inciter à acheter tout et surtout n'importe quoi. À la place, on lit Macron dégage qui recouvre une pub pour une bière beaucoup trop forte. On se demande pourquoi c'est toujours vendu. Autogestion également, hein, à cercler, mais sont aussi de la fête sur ce carrefour où les panneaux sont légion. Bah parce qu'il y a souvent des bouchons et ça permet comme ça de faire de la pub pour des trucs dont on n'a pas besoin. Vers 9h, les bloqueurs se réunissent pour décider de la suite. Un air de démocratie avec des prises de parole, des propositions et des votes. Des votes en direct, ce que Ouest France appelle des votes improvisés, dans le titre d'un reportage sur la journée. De fait, c'est tout simplement une assemblée générale des concernés sur le sujet qui les concerne, qui statue par le vote. Sur la suite. C'est pas improvisé, c'est juste la suite des discussions. Ce qui a été décidé, c'est d'aller au rond-point de la Pointe, près du centre commercial du même nom, et se rapprocher ainsi du centre-ville, où aura lieu une manifestation à 14h. Là, on est près de 200 personnes, dont une cinquantaine de cyclistes, qui se retrouvent boulevard de Morieux et bifurquent sur la rocade pour rejoindre le carrefour de la Pointe. Les rôles se répartissent une fois arrivés et les différentes voies d'accès sont bloquées avec des palettes, des barrières de chantier et des caddies trouvés dans le centre commercial. Un taxi hurle qu'il n'a pas le temps. Il est rembarré par des manifestants qui lui rappellent qu'il y a 2 mois, c'est lui qui bloquait. Alors peut-être pas lui, mais en tout cas les taxis. Un homme tente de forcer le passage. Il est bloqué. Des caddies posés sur le flanc devant la caisse en question. Et puis, ben, les policiers tentent de dégager les caddies. Des manifestants les tiennent. Les policiers lâchent l'affaire. Sauf un motard qui soutient les velléités de l'écraseur.
pas dit ça.
J'étais sur un passage piéton.
Vous allez vous mettre les gens.
Là, vous faites de la politique.
Moi, je vous avez le droit.
J'étais sur le
mur et vous mettez les gens à deux.
Et alors, vous êtes sur un passage piéton.
Vous les emprisonnez.
Le monsieur me roule dessus.
Vous les emprisonnez déjà.
Moi, je trouve ça vraiment grave.
Ah oui.
La justification habituelle liée à la prise d'otage, si un automobiliste tente de forcer le passage, c'est justifié par le motard de la police, par le fait d'être emprisonné. Alors en fait, il est bloqué pour un certain temps, pas du tout emprisonné, mais bon, des formations professionnelles peut-être. Le mot utilisé ici est donc emprisonné. Et donc ça suffit, c'est normal, il a raison de péter un plomb, l'automobiliste. Alors c'est sûr, il avait peut-être des choses à faire. Le défenseur de l'ordre est peut-être aussi virulent du fait des citoyens qu'il a en face de lui. Avec des agriculteurs de la FNSEA et de la coordination rurale, le lien culturel était peut-être, et là je m'avance en terrain inconnu, était peut-être moins ténu et l'envie de dialogue plus importante. Là, il n'y a pas de conversation. Mais pour elle continue. Tout le monde parle un peu trop fort, des bagnoles passent, parce que pendant ce temps-là, pendant qu'il y a ce truc-là, eh bien le passage filtrant fait sa vie. Et comme il est filtrant, bah, de temps en temps, ça s'ouvre. La tension concerne au plus une dizaine de personnes et un gradé de la police qui, sans le regarder, tente de calmer le motard. Les deux mondes, celui des manifestants et celui du motard, semblent irréconciliables et le fossé culturel immense. Extrait d'incompréhension.
Ah, je croyais que vous connaissiez la loi.
Quelle assurance ? Quelle assurance ?
J'ai même le droit de te tutoyer aussi.
Ah bon ?
Bah, bien sûr.
C'est vrai.
Mais tu es un être humain comme moi.
Et on vous manque vraiment de respect.
Mais non. Mais je te respecte. Justement, c'est justement.
C'est justement parce que je te tutoie. Tu le gendarme. Ça oui, c'est ça.
Alors l'idée que le respect passerait par le tutoiement, là, c'est pas passé du tout. Finalement, ça s'arrange dans le sens où le motard rejoint sa moto. Il a compris que c'était pas la peine de discuter avec des gens avec lesquels il ne pourrait pas être d'accord, puisqu'au départ, il n'était pas d'accord et n'avait pas envie de se mettre d'accord. Donc des manifestants circulent le long des véhicules bloqués pour savoir s'il y a des urgences et parfois des voitures sont libérées un peu plus vite que d'autres. Toujours filtrant, le barrage dure jusqu'à 10h45 environ. En même temps, des cheminots qui se battent contre la SNCF avaient une audience devant le tribunal des prud'hommes à la cité judiciaire du Mans. Ils attaquent leurs employeurs pour la SNCF, leur employeur donc, pour des sanctions alors qu'ils étaient en grève. L'inspection du travail donne tort à la SNCF, le droit donne tort à la SNCF, mais la SNCF veut aller au procès. Les journalistes, les lanceurs d'alerte, se plaignent des procédures bâillons, dont le but est simplement de faire taire les voix discordantes. Eh bien là, on est dans le même registre, mais contre des syndiqués. Et tous ceux qui voudraient empêcher d'exploiter tranquille. Devant le tribunal, ce mercredi matin, avait lieu un rassemblement de soutien et une partie des militants est venue rejoindre les bloqueurs à la pointe à 10h45. Tout ce beau monde s'en va. Après, une nouvelle assemblée générale, un nouveau vote qui n'est pas improvisé. Hein. Et voilà des manifestants en direction du rond-point du tunnel pour rejoindre les lycées. C'est un de Bellevue qui descend en cortège de leur lycée. En même temps, un piquet de grève était posé devant l'hôpital. Le temps est dégagé et une pause bien méritée s'organise sur la place minéralisée des Jacobins. Une cantine de Nutella, deux tables, des jerricans d'eau, du jus de pomme du coin, du pain du même coin, un taboulet roboratif et quatre personnes au service. Et voilà comment on nourrit une bonne petite centaine de personnes. Des groupes épars se s'égaillent sur la place des Jacobins et assis par terre dégustent le mélange à base de semoule de blé. Deux lycéennes récupèrent un sac poubelle pour y mettre les reliefs du repas de leur petit groupe et finalement, font le tour pour récupérer les couverts et les déchets des autres. Des thermos sortent des sacs des plus organisés et arrive l'heure de se rendre place de la République pour la manif organisée par les syndicats. 3500 personnes selon l'Ouest France, 2500 à 3000 selon Le Maine Libre qui sont sur la même ligne minimisatrice que Ici Maine. Faudrait qu'ils apprennent à compter tout ce beau monde. Alors le comptage maison donne 3200 manifestants qui sont passés devant la rue de la Comédie en direction du palais de justice. Les gens discutent, lèvent des pancartes, jouent des instruments, le camion de la CGT joue sa playlist et puis d'autres constatent qu'il y a des trucs qui vont pas. Ah, C'est vrai que c'est moche tout ça. Les dégueulasseries s'accumulent dans le pays. Hein. Darmanin qui tenta par exemple en 2024 lors de la campagne des législatives d'enlever les écologistes du fumeux arc républicain où les macronistes ont ancré le RN. Souvenons-nous quand même que ça s'est passé après le 7 octobre 2023, l'instrumentalisation des attentats du Hamas pour faire de LFI des antisémites. Tiens, au fait, on en est où de tous les procès qui devaient être intentés par les têtes de gondole de la Macronie contre toutes les têtes de gondole de LFI ? Un politicien professionnel dont le nom est attaché à des emplois fictifs à la mairie de Paris et à des frais de bouche gargantuesques quand il était locataire de l'Élysée aurait dit que tout ça a fait pchit. La conséquence du procès en antisémitisme de LFI et le soutien indéfectible des macronistes pour l'extrême droite religieuse israélienne au pouvoir en Israël fut quand même d'intégrer le RN dans l'arc républicain et de légitimer le racisme et la xénophobie de cette formation libérale d'extrême droite. Ah bah oui, mais libérale. Pour les prochaines manifs, une idée, Bolloré c'est dégueulasse, a décliné avec eux tous les médias que le groupe Bolloré possède. Quand les manifestants du 10 septembre arrivent sur la place de la République, il est compliqué de faire entrer tout le monde. Ça prouve quand même qu'il y a du monde. Un moment de flottement rend l'organisation difficile. Néanmoins, 300 à 400 personnes font cercle là où la municipalité avait enlevé le jardin éphémère estival, alors que l'été résiste officiellement jusqu'à la fin septembre. Les conversations s'engagent dans cette assemblée générale avec des positions différentes. Tout ça est résumé dans l'article de Issimen par un laconique difficile pour les participants de se mettre d'accord. Ben oui, en effet, c'est difficile à plusieurs centaines en quelques minutes de se mettre d'accord. Mais les dieux n'étaient pas avec le mouvement et la pluie tombe de plus en plus. Fatiguant les corps et les esprits, une troupe d'une centaine de personnes part en manif vers la gare et une centaine de manifestants se réfugient dans le parking souterrain de la REP pour continuer l'assemblée générale. Ouais, ambiance hall de gare. Bon, mais là aussi, ça discute. Ça discute, ça argumente, ça se met d'accord. Pas de violence, d'ultra-violence, d'hyper-violence, de drapeau LFI, d'incantation à Mélenchon. Rien de ce que le ravi de Vendée qui triche à Interville renvoie dans ses allocutions télévisées. Les discussions sont longues, hasardeuses, faites de retours en arrière, de compromis, de consensus remis en question par un point non discuté qui paraît finalement important au regard de la décision prise précédemment. Tous ceux qui ont déjà voulu organiser une réunion de famille, la détermination d'un cadeau pour un retraité ou tout autre événement à plusieurs savent les allers et retours entre les participants, le temps passé, les messages échangés. Mais quelle satisfaction quand toute la troupe se réunit, quand le cadeau est déballé, que les efforts sont de fait récompensés. Au niveau politique, c'est d'autant plus compliqué que nous, les citoyens d'un pays démocratique, nous ne sommes pas formés à prendre des décisions en commun. Ce n'est pas dans notre culture puisque le pouvoir de décision est accaparé par nos soi-disant représentants et tous les aspirants représentants qui nous expliquent à longueur de plateaux télé, radio et autres que c'est trop compliqué et qu'il faut les laisser faire. Des explications à base d'allégories fumeuses et de bon sens. Ouais, vous êtes trop cons en gros. Alors heureusement qu'on est là. À force de prendre les gens pour des cons, eh ben ils sont plus, qui ne sont pas capables de réfléchir, ça crée de la frustration. Et le 10 septembre, ben on était en plein dedans. Alors d'accord, c'est long, c'est fastidieux, c'est pas économiquement efficace de permettre aux populations de s'organiser, mais c'est l'essence même de la démocratie. Pas la représentative, hein, qui est une version bidonnée servant à produire une élite de margoulins qui nous font les poches et nous prennent notre temps de vie, nous envoient des Pékins bien payés pour nous tabasser, comme trop d'images le montrent d'ailleurs encore lors de ce 10 septembre. Non, je parle de la démocratie, système politique où la population a le pouvoir de décider de ce qui la concerne. Alors c'est long, c'est fastidieux. Surtout parce qu'on le fait trop rarement et du coup, ben, on manque un petit peu de cette culture. On ne peut pas compter les moments où les groupes politiques appelés partis nous cajolent dans le sens du poil pour que notre voix leur revienne dans les urnes. Non, ça c'est pas bon, ça sert pas. On sert à quoi là ? La Fontaine et Ésope avant lui sont passés par là pour nous expliquer. Rappelons-nous que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors, quand la population a-t-elle la place pour décider de ce qui la concerne ? Ouais, quand ? Dans les conseils de quartier à pouvoir consultatif, dans les associations, quand la gouvernance veut bien laisser de la place, les espaces sont tellement restreints que la culture du dialogue et de la prise de décision se transmettent peu. Et ben du coup, cette culture, enfin ce dialogue et cette prise de décision étant si peu nombreux, on a des petits soucis pour pouvoir les appliquer quand on en a besoin. Les délires terroristes de Retailleau, la répression féroce et la mise au garde à vous des médias, ça aussi, ça sert. Ça sert à quoi ? Et ben ça sert à nous empêcher de continuer à essayer de nous organiser. Et du coup, le 10 septembre, eh bien, le 10 septembre, il continue. Il continue à la CETRAM, par exemple. Il a continué dans quelques lycées, il a continué dans certains lieux. Il continue aussi par l'expression de cette volonté de prendre des décisions à plusieurs, notamment des assemblées générales qui se font un petit peu partout en France. Si vous voulez continuer à être au courant, il y a des boucles Telegram et compagnie, indignons-nous.fr. Alors en attendant, je vous dis tout simplement, allez, Au revoir.
Mm-hmm.